difficulté d'éditer les sermons médiévaux, c'est le sujet que va traiter Ariane l'aînée, qui enseigne à l'université d'Orléans. Son travail porte sur les sermons en moyen anglais, les éditions de textes manuscrits. Voilà.
Oui.
Donc, elle a récemment contribué à un ouvrage collectif, Two Marriage Sermons. Elle est très active dans la recherche et puis dans l'édition de recueil de sermons.
J'ai un problème là, je voudrais bien afficher. Il n'y a plus rien. Comment... Le bureau, il est.
Tu fermes en fait. Fermes en haut.
Là ? Ici, là ?
Ouais. Et tu devrais trouver ton écran normal.
Ok. Indeed. Voilà. Super. Merci. Bon, est-ce que c'est assez lisible ? Est-ce que c'est assez lisible ? Oui ?
Ah oui.
Alors, moi aussi, merci beaucoup de me permettre d'être là avec vous et merci à tous les intervenants précédents. J'aimerais pour ma part vous parler d'édition de textes manuscrits et de la difficulté d'éditer des compilations de sermons médiévaux. Et je retiendrai trois mots-clés, éditer, compilation et sermon, ce qui est assez logique. Je tâcherai de déterminer dans un premier temps le lien de ces trois mots-clés avec la thématique du jour. Je tenterai dans un second de montrer en quoi il est difficile d'éditer des compilations de sermons médiévaux. Et mon but à l'issue de cette démonstration étant d'attirer votre attention sur l'importance, je crois, d'éditer des compilations dans leur intégralité plutôt que de façon fragmentée. Alors s'il est un genre littéraire qui relève à la fois de l'emprunt et de la dette, c'est sans conteste le sermon médiéval. Chacun défend son pré carré. La dette se distingue de l'emprunt par leur rapport de cause à effet. Contracter un emprunt rend redevable. On notera toutefois que le fait de prêter de l'argent dans le but d'en tirer avantage était aussi grave que celui d'en emprunter. Les usuriers, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, bien plus souvent d'ailleurs que les débiteurs, font l'objet de critiques sévères, dans les traités religieux et les exemplats notamment. On retrouve souvent associés créditeurs et débiteurs, comme dans l'extrait suivant. C'est un extrait de A Little Treatise de Richard Levinen. Alors vous me pardonnerez ma lecture, je vais moderniser la lecture. Usurer is when a man leaneth for winning by covenant, privately or openly, or else in intent to take gifts or presents because of that leaning. Buying or selling the darer for dredging of the payment, or making any new chivens, touching house or land, or any meble, cattle in intent to be paid of more than he leaneth. And dreadless the bearer and the seller, the borrower and the lender, be both accursed. Alors, on trouve une idée similaire aussi dans Jacob's Well, que je ne vais pas lire, mais si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. On note également que la dette était souvent perçue comme la conséquence d'un manquement reflétant une faiblesse morale. On ne s'étonne donc pas que les prêtres, qui étaient les gardiens des âmes de leurs ouailles, aient condamné celui qui faillait à rembourser ce qu'il devait. Et les exemplats sur le thème des créditeurs et débiteurs sont assez nombreux pour juger de l'usage que pouvait en faire un prêtre, mais aussi et surtout pour juger de la signification morale et religieuse de la dette. Donc ces exemples-là, comme chacun le sait, sont ces petits récits édifiants qui viennent agrémenter les sermons de façon à garder l'auditoire éveillé. Donc, en consultant le théma, qui est donc un recueil, non pas un recueil, mais un répertoire d'exemples-là, Voilà, je vous donne ce qu'est le théma, le Thésaurus Exemplorum Medii Aevi, qui est très utile. Alors, pour l'entrée d'être, le théma nous propose quand même 47 exemplats, et j'en ai retenu un qui me semblait assez intéressant. Alors là, c'est un copier-coller du résumé tel qu'il nous est donné dans le théma. Donc, théma résume donc cet exemplum comme ceci. Il ne suffit pas qu'un faussaire n'écrive plus pour effacer son péché. Il doit détruire le faux par les larmes de la contrition. De même pour le blasphémateur et pour celui qui n'a pas réglé ses dettes. On perçoit bien dans cet exemple que rembourser sa dette n'était pas suffisant pour en être quitte et qu'il convenait que le geste s'accompagne d'un repentir sincère et de la volonté de ne pas recommencer. Comme l'indique cet extrait d'un sermon pour Pâques conservé dans plusieurs manuscrits, c'est du XVe siècle. Right so, every man and woman in this world living, though he pays his debts that he oweth, and though he be shriven at the priest his ghostly father, yet if he goes to God his board without repentance of heart, and in a will or purpose to turn to sin again and to his wickedness, he receives there the blessed sacrament to his endless damnation, as Judas did when he was household up. Ça fait écho à ce qu'on a entendu ce matin. À vrai dire, la dette trouvait son origine dans le rachat de l'humanité. Une idée fréquemment développée dans les sermons était que la dette la plus lourde jamais contractée par l'humanité, par l'homme, le fut envers le Christ, sacrifiée pour le bien de l'humanité, comme dans l'exemple suivant. The fifth, alors... Je vais lire avec vous parce que je n'ai pas sur mes notes celui-là. The third time was when he was hanging and put upon the cross, where every vein and sinew of his blessed body was all to brass so straightly was strained of the cursed Jews. Les revoilà. And that was the ransom of our redemption. Je ne peux pas mieux illustrer ce que vous disiez ce matin. Je ne peux pas trouver mieux. On trouve aussi cette idée dans un autre. Alors ici, je n'arrive pas à aller. Hop, je cherche ma petite flèche. Voilà. Un autre exemple. The fifth time and the last was when his precious side, c'est un peu la même chose, hein, was pierced with a sharp spear into his heart, which was the sacrament of our redemption and full ransom paid. When they ran out of plentifully both blood and water which figured, etc., etc. Alors, ce sermon dont ce passage est extrait est conservé dans d'autres manuscrits, et vous avez en dessous une autre version, hein, conservée dans un autre manuscrit, manuscrit de la Bodleienne. Alors, c'est quasiment la même chose, sauf que vous voyez en rouge le terme ransom dans le premier manuscrit, ici traduit par finance, l'équivalent de finance. Alors, encore une fois, on voit bien le lien entre rançon, finance, hein. On parlait de dette immatérielle tout à l'heure. Alors, on voit bien que pour une dette même immatérielle, on va employer des termes très concrets, hein, qui renvoient vraiment à l'argent, hein, aux pécuniaires. Et alors, je fais une très brève recherche dans le Middle English Dictionary. Que nous dit le Middle English Dictionary for Finance? Ben, on trouve aussi d'autres exemples comme ça, qui sont là. Alors, par exemple, chez John Lydgate, The Saying of the Nightingale. On a one he mankind brought out of prison making his finance with his passion. On a aussi dans cet extrait de la vie de Sainte Anne, she was the very mother of behest to this world that hath brought faithfully the treasure of a finance finally. Et enfin, j'espère que c'est visible, dans le dernier exemple, alors là on a carrément les deux termes. We also, whose ransom and finance is made with thy blood most precious. Alors on voit bien encore une fois ce mélange hein, de références à la fois au temporel et puis au religieux. Alors on se pose bien sûr la question suivante, mais en quelle monnaie le rachat d'une telle dette pouvait bien se payer ? Fallait-il que l'humanité elle aussi verse son sang ? Inévitablement, hein, à la fin du monde, mais en attendant l'apocalypse, eh bien le rachat de son salut devait se faire au quotidien, comme il était rappelé chaque dimanche. La meilleure façon de racheter sa dette envers Dieu étant de se comporter en bon chrétien, en prenant bien sûr le Christ pour exemple. Et c'est un aspect des sermons que je trouve intéressant, c'est que si l'humanité, d'une manière générale, au Moyen-Âge, était comprise dans sa globalité et la société perçue comme faite de trois grands ordres qui ne laissaient guère de place à l'individu, on note quand même avec intérêt que les sermons insistaient sur l'importance du rôle joué par chacun, chaque homme, chaque femme, c'est dit systématiquement, individuellement, avait le pouvoir et le devoir de s'acquitter personnellement de la dette de l'humanité. Et pour le prêtre, s'acquitter de cette dette signifiait bien sûr sauver ses ouailles par son exemple et son enseignement. C'est ce qu'on a dans l'exemple suivant. And three things oweth each preacher to have. One is that he does himself as he teaches to other, and another that he teaches the law of God Almighty, and another that he preaches for no worldly winning, as announced the first example we have of Christ. Là encore, l'accomplissement du devoir se devait d'être gratuit, désintéressé, hein, for no worldly winning, hein, c'est ce qu'on a. Malheureusement, de nombreux prêtres faillaient à s'acquitter de leurs obligations sacerdotales par manque de livres, par incompétence, voire par paresse. Et c'est d'ailleurs pour ces mêmes prêtres que John Mark conçut le célèbre The Instructions for Parish Priests et l'encore plus célèbre Festual. Et d'ailleurs, John Mark exprimait dans son prologue cette intention, le prologue du Festual, qui est ici. Alors, on se contentera des dernières lignes. Hein. But for many excusing them by default of books and simpleness of lecture, therefore, in help of such mean clerks as I am myself, I have drawn this street a stirring out of Leganda Aurea, with more adding to, so that he that have a lust to study therein, he shall find ready, of all principal feasts of the year, a short sermon needful for him to teach, another fit to learn. On note ici avec intérêt ce que dit John Merck, enfin, moi en particulier. I have drawn this treaty sowing out of legenda aurea, with more adding to. Bon, vous voyez où je veux en venir. Comme il l'indique, de nombreux sermons étaient le fruit de recréations à partir d'emprunts. Leurs auteurs citaient le plus souvent leurs sources, quand celles-ci pouvaient l'être, comme c'est ici le cas, même partiellement. Cela n'a rien de nouveau, je ne vous apprends rien. Quoi de plus naturel pour un sermon dont la visée était d'instruire que de se fonder sur le savoir et l'exemple ? Le sermon était un mélange de tradition, mais aussi de modernité à mesure que la forme et les sources évoluaient. Nous disposons aujourd'hui d'outils forts, utiles, pour retracer ces emprunts, qu'il s'agisse du théma, cité tout à l'heure, ou bien de Library of Latin Text, hein, version électronique, les nombreuses versions électroniques aujourd'hui, bah, de la Bible, mais de la patrologie et d'autres ouvrages importants tombés dans le domaine public. Il y a pour les sermons également Repertorium of Middle English Prose Sermons, qui est fort utile, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il arrivait fréquemment que pour les besoins de leur sacerdoce, des prêtres compilent et recomposent leurs propres sermons à partir de morceaux de sermons anonymes, empruntés à différentes traditions qu'ils avaient puisées dans toutes sortes de compilations. C'est là que les choses se compliquent vraiment pour l'éditeur moderne. Comment retracer l'origine d'une telle dette ? Surtout si
Si les éditions que nous proposent les éditeurs ou éditeurs modernes ne rendent pas compte des compilations dans leur ensemble. Pour illustrer mon propos, je prendrai comme exemple des sermons conservés dans deux manuscrits de la British Library, Harley 2247 et Royal 18B25. Alors, comme l'indique John Mock dans son prologue, ces sermons sont des traductions dans le Fastuel, les sermons du Fastuel sont des traductions en moyen anglais de la légende dorée, qu'il a remaniée en puisant à d'autres sources afin de les adapter aux besoins et puis au goût du jour surtout. Le Fastuel connut lui aussi un formidable succès et fit lui-même l'objet d'une révision conservée donc dans ces deux manuscrits. H et R. En somme, H et R conservent une révision d'une révision. Leur auteur, un anonyme, a procédé de la même manière que John Mark avec la légende dorée, en reprenant le texte de base et en le complétant, tantôt en puisant dans la légende dorée, mais tantôt dans d'autres sources, notamment le Fasciculus Morum. Le cycle des sermons conservés dans H&R offre donc une révision du Fastuel, mais auquel des sermons pour les mêmes occasions, mais empruntés à d'autres traditions, ont été ajoutés comme ceci. Alors là, ce ne sont que les premiers sermons. Hein. Il y en a 121. Là, j'en ai mis 31 sur 121. Alors, j'ai mis des couleurs différentes. Bleu, c'est pour les révisions du Fastuel. Et puis vous avez vert et rose, ce sont des sermons qui appartiennent à d'autres traditions. Donc on voit bien que dans ces manuscrits H&R, c'est vraiment une compilation avec des révisions du Fastuel et puis d'autres choses. Donc la compilation conservée dans H&R comporte 92 sermons inspirés du Fastuel, 36 pour le sanctoral, 56 pour le temporal, plus 25 sermons que j'appelle additionnels, pour le temporal et 4 sermons additionnels pour la partie sanctorale. En tout, cette compilation comporte 121 sermons qui forment un cycle complet pour l'année liturgique. Les sermons pour le temporal, ces sermons pour le temporal ont fait l'objet d'une édition critique par Susan Powell et ceux pour le sanctoral ont été édités par Elodie Monteau, dont voici les références. Ce sont des thèses, aucune n'a été éditée. Enfin, publié. On note pour commencer, et malgré l'excellence de leur travail, qu'elles ont fait le choix d'éditions fragmentées, parcellaires. L'une a édité le temporal et l'autre le sanctoral. Bon, ça, d'une part, sont des thèses, et d'autre part, il y a quand même 121 sermons. C'est du travail, donc je ne leur jette pas la pierre. Hein. Je note juste au passage, c'est tout. Donc, pour en revenir à ce que je disais, les sermons additionnels, je reviens sur cette page-là, donc les sermons additionnels, vous en avez donc en vert et en rose, appartiennent à des traditions différentes. Mais je mets en rose 11 sermons qui circulent ensemble dans d'autres groupes de manuscrits, et donc ces 11 sermons appartiennent vraisemblablement à la même tradition. Alors, c'est les autres manuscrits qui conservent aussi ces 11 sermons additionnels. J'en ai fait une liste ici. Voilà. Donc, il y a le premier sermon, le manuscrit dont j'ai déjà extrait des extraits, GG 616, H, R, deux manuscrits de Gloucester, un de la Bodleian, un autre de Lincoln Cathedral Library, et puis un de Durham University Library. Donc, ces 11 sermons circulent dans ces manuscrits. Alors pour vous donner une petite idée de la tradition manuscrite pour ces 11 sermons, j'ai fait cette petite chose qui est là. Voilà. Alors, ces 11 sermons, le manuscrit qui conserve la version la plus proche de l'original, c'est GG 616. Donc on part de GG 616 qui conserve la version la plus proche de l'original, qui bien sûr, toujours dans ces cas-là, est disparue évidemment. Et puis alors ces 11 sermons Ensuite, on fait l'objet d'un petit remaniement, d'une petite révision, encore une fois pour les adapter davantage au goût du jour. Alors ça, c'est l'étape que j'appelle X, donc révision des sermons additionnels, de ces 11 sermons. Et puis après, ça se divise en deux branches. Il y a la branche avec les manuscrits HR, dont j'ai parlé, et puis une autre branche. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est surtout ce qui se passe en Y. Donc, on voit les 11 sermons qui étaient dans GG 6-16, qui ont été révisés. Et puis après, en Y, c'est la rencontre de deux traditions. La tradition de ces 11 sermons, puis les révisions du Fastiol, et puis encore d'autres sermons additionnels qui étaient en vert tout à l'heure. Alors, que se passe-t-il en Y? Alors, la première chose, et ça, c'est un élément essentiel qui a été montré par Susan Powell, c'est que la personne qui a révisé les 11 sermons en X est probablement la même personne que celle qui a révisé le Fastio. Alors ça, c'est quand même tout à fait intéressant. On se dit, ah, mais alors ça a du sens que ces sermons soient ensemble, si c'est la même personne qui les a remaniés. Effectivement, ça ne manque pas de sens. C'est tout à fait pertinent. Alors ça donne du sens non seulement à l'assemblage, mais ça va aussi expliquer le phénomène que je trouve ici intéressant, qui est un phénomène de réécriture de l'ensemble de la compilation. Alors, ce phénomène de réécriture de l'ensemble de la compilation qu'on trouve dans HR fonctionne à trois niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous explique... Est-ce que c'est la bonne ? Oui, celui-là. C'est ce que nous explique Susan Powell. Finalement, dans cet assemblage, dans cette compilation, donc on voit bien tout à l'heure, je vais vous remontrer celle-ci. Voilà, vous voyez, il y a une alternance de sermons de révision du Fastiol et puis une alternance de sermons qui viennent d'ailleurs. Hein. Et puis pour certaines occasions, par exemple pour l'Avent, vous voyez, il y a un sermon qu'on trouve dans GG 6-16, un sermon qui vient d'ailleurs, un sermon du Fastiol. Donc pour une même occasion, il peut y avoir plusieurs sermons. Et puis, si vous voyez, pour la circoncision, là, il y a en rose un sermon qu'on retrouve dans GG 6-16, et puis en bleu un sermon qui vient du Fastiol. Donc on a deux sermons pour cette même occasion. C'est très fréquent dans cette compilation. Alors, pour ces sermons, ce sermon pour la circoncision, donc Susan Powell nous dit ceci. Alors, c'est là. Elle explique que au moment de la compilation, finalement, il a vraisemblablement d'abord écrit le sermon qui vient de GG 6-16, puis au moment d'inclure la révision du Fastiol, ben, finalement, comme ça reprenait un peu des choses qui avaient déjà été dites dans l'autre sermon, ben, finalement, il les enlève. Il ne suit pas son modèle qui est le Fastiol, il ne suit pas son modèle à la lettre, et puis il enlève des choses. Alors voilà ce que nous dit donc Susan Powell. We may note a number of cases of omissions to the Fastiol text, donc le modèle, in the interest of brevity or to avoid the reduplication of material. The sermon for the circumcision of Christ gives details of the 5 bleedings of Christ. The revised version, donc ce qu'on a dans HR, of the same sermon omits these details with the note nota superius in exhortatione circumcisionis domini. Since the previous sermon, a new one, not based on the Fastiol, or the closely dependent on the Liganda Aurea, has already given those details in full. Donc, on voit bien un premier niveau de réécriture du Fastiol, en fait, bien, qui fonctionne avec la compilation. On ne peut pas comprendre le niveau, la révision, si on ne comprend pas que ça fonctionne avec une compilation. Deuxième niveau de réécriture, et j'ai ces exemples-là. Alors ça concerne cette fois-ci le sermon pour l'épiphanie. Alors regardez mon petit schéma là, vous voyez, sermon pour l'épiphanie, il est là, mais quand on regarde, il n'y en a qu'un pour l'épiphanie, il n'y a qu'une révision du Fastiol pour l'épiphanie, il n'y a pas de sermon additionnel pour l'épiphanie. Alors pour ça, Susan Powell nous dit, oui, mais il y a bien un sermon additionnel qui existe pour l'épiphanie dans les manuscrits que j'ai cités. Mais leur source, c'est la légende dorée, qui se trouve être même la source du Fastiol, donc de l'art. Donc tout ça, c'était redondant, donc il n'a pas inclus ce sermon, parce que ça faisait vraiment trop. Oui, c'est une explication qui se tient. Mais en fait, ce n'est pas que ça, ça va même plus loin que ça, c'est que pour réviser son Fastiol, il s'est servi du sermon additionnel. Et voilà quelques exemples. Non, c'est pas là. Ça doit être la suivante. Ici. Alors, donc, quand il révise le fasciol, il reprend le fasciol et puis il améliore un petit peu. Alors, donc, en H, on a « When our sovereign Savior Jesus Christ should be born in Bethlehem in the days of Herod the king, there were three kings. » Mais ça, c'est pas dans le fasciol. À cet endroit-là, ça n'y est pas. Mais par contre, on le retrouve dans le sermon additionnel de GG 6.16. On se dit, bon, on sait où il est allé le chercher. Ça, c'est très clair. Un autre exemple. Ici, alors là, regardez en H. As they should return homewards, an angel in their sleep admonished them that they should not go by Herod. And as it was the pleasure of God, they took another way into their region and country. Alors cette anecdote, bien sûr, elle est très connue. On la trouve dans la légende dorée, on la trouve dans le fasciol. Mais dans le fasciol, elle est relatée plus tard dans le sermon. Et là, il anticipe le fasciol. Évidemment, vous savez où il est allé chercher ça. Eh bien, dans le sermon additionnel, bien sûr, c'est ce qu'on a juste au-dessus. Écoutez, c'est exactement la même citation, mot pour mot ou presque. Et quand il arrive au passage du fasciol où enfin cette anecdote est relatée, mais ah mince, je l'ai déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Voilà, alors dans le fasciol, donc plus bas, on a bien cette anecdote. Thus, when these kings hadn't done here offering by teaching of an angel, they left Herod and went home by another way. Bon, alors il reprend ça et puis dit, as I said before. Il se retrouve, ah mince. Donc on voit bien ici que la réécriture et la révision du fasciol est vraiment, elle ne peut pas être comprise indépendamment de la compilation. Troisième degré de réécriture. Alors, pour comprendre ce troisième degré de réécriture, il faut regarder un petit peu, comprendre comment fonctionne GG6.16, hein, d'où viennent ces sermons. Eh bien, GG6.16, c'est une compilation. Encore une compilation. Et alors, une compilation, on voit bien. Alors, j'ai mis cahier 1, cahier 2, cahier 3, cahier 4, 5, parce que. On peut vraiment distinguer trois parties différentes dans cette compilation, en se fondant à la fois sur le papier, les filigranes, la présentation des textes, on a des sermons universitaires, c'est très très particulier, des sermons pour les mariages, des sermons uniques qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc ces 11 sermons là dont je parle depuis tout à l'heure, ils sont dans les cahiers 4 et 5. Bien. Et alors c'est un cycle qui est incomplet, il s'arrête au carême et normalement il devrait se poursuivre, mais il n'y en a pas d'autres. Vraisemblablement le manuscrit est abîmé. Et alors il y a dans la révision du fasciol aussi un sermon pour la Toussaint, comme il y en a un dans le fasciol, rien de surprenant. Mais encore une fois, pour réviser le sermon pour la Toussaint du fasciol, eh bien, il va aller chercher dans cette compilation un sermon que vous voyez, il se trouve dans les cahiers 2 et 3, et pas du tout avec les 11 sermons. Ça signifie que finalement, d'une part, l'exemplaire qu'il avait sous la main, c'était vraiment ce manuscrit, et pas un autre intermédiaire, ça c'est un point important. Et puis, ça nous dit aussi finalement ce qui est essentiel, ça montre que les compilateurs se servaient d'autres compilations en faisant des choix d'édition partiels de manuscrits composites et en resélectionnant les textes. Et si nous on fait des éditions partielles en disant ça va avec ça, par exemple je ne vais éditer que les cahiers 4 et 5, le reste c'est des sermons universitaires, mais en fait je vais passer complètement à côté de la démarche d'un homme au Moyen-Âge. La démarche au Moyen-Âge, c'était de regarder la compilation dans sa globalité. Donc, en conclusion, j'invite tous les éditeurs de manuscrits à les éditer dans leur intégralité et non pas par petits morceaux. Voilà. Je vous remercie.
Ariane, pour cette présentation qui est loin d'être fragmentaire. Voilà.
Merci.
Donc, des remarques, des questions. Donc, Donc en fait, si je comprends bien, on a affaire à une sorte de Reader's Digest dans l'heure.
Oui, oui. On peut dire ça, effectivement. On peut dire ça.